Toujours à l'écoute de la Radio du Monde, tout de suite place à Décryptage, présenté par François Ballarin. Bonsoir François.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
Décryptage. François Ballarin.
Il a soigneusement écarté tous ses opposants sérieux, n'a pas fait campagne, n'a participé à aucun débat. Et pourtant, l'indéboulonnable Vladimir Poutine est donc bien en route pour un cinquième mandat de 6 ans. En 2018, il avait obtenu 77,53% des suffrages. Cette année, il fait donc encore mieux, 87,85% des voix. Les chancelleries occidentales dénoncent un scrutin basé sur la répression et l'intimidation. Mais 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, le président russe réélu peut aussi compter sur des soutiens ailleurs dans le monde, traité en paria par les pays occidentaux. Vladimir Poutine n'est pas pour autant isolé diplomatiquement. C'est le sujet de Décryptage ce soir. Bonsoir Lucas Aubin.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, docteur en études slaves et auteur de Géopolitique de la Russie, paru aux éditions La Découverte. Quand on pense aux alliés de Moscou, on pense naturellement à la Syrie, à l'Iran, à la Corée du Nord. Dès dimanche soir, les dirigeants du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba, de Bolivie ont félicité Vladimir Poutine. Mais ce ne sont pas les seuls.
La Chine exprime ses félicitations à cet égard. La Chine et la Russie sont l'un pour l'autre les plus grands voisins et des partenaires de coopération stratégique globale dans la nouvelle ère. Nous sommes convaincus que sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Poutine, les relations entre la Chine et la Russie continueront à progresser à l'avenir.
Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, après l'annonce de la réélection de Vladimir Poutine, est-ce qu'il faut y voir de simples félicitations de rigueur ou un message d'amitié réelle, de main tendue de Pékin à Moscou ?
C'est plutôt la continuité, en réalité, d'un rapprochement qui a commencé au début des années 2000 entre la Chine et la Russie. En fait, Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir fin 99, lui, il avait cette idée très tôt qu'il fallait que la Russie effectue ce qu'il appelait, et ce qu'il appelle toujours, son pivot vers l'Est, à savoir le fait de regarder un peu moins vers l'Occident, mais davantage vers l'Orient. Et il faut se souvenir, évidemment, que 3/4 du territoire russe sont situés sur le continent asiatique, alors que seul 1/4 est situé sur le continent européen. Et de fait, il s'est rapproché de la Chine de Xi Jinping et peu à peu, ils ont noué un certain nombre de partenariats au point d'augmenter leurs balances commerciales respectives. Et on se souvient, juste avant l'invasion de l'Ukraine, que Vladimir Poutine était par exemple l'invité d'honneur des JO de Pékin, alors même que la Russie était exclue de ces JO, c'est-à-dire que les athlètes devaient participer sous bannière neutre, donc sans drapeau et sans hymne. Et ça montre bien finalement qu'il y a une forme d'amitié qui existe entre les deux puissances. Évidemment, en relations internationales, en géopolitique, on ne parle pas concrètement d'amitié, mais plutôt d'intérêt mutuel. Et bien entendu, dans le contexte qu'on connaît actuellement, à savoir le fait que le monde peu à peu se désoccidentalise, ou en tout cas que des puissances non occidentales commencent à avoir plus d'importance à l'échelle internationale, la Chine et la Russie ont des intérêts communs, bien sûr.
Mais la posture chinoise vis-à-vis notamment du conflit en Ukraine, est-ce qu'elle ne change pas ? Récemment, le nouveau ministre de la Défense chinois affirmait que la Chine soutenait la Russie dans le dossier ukrainien. Pékin n'avait jamais affiché une position aussi officielle sur le sujet.
C'est vrai. Jusqu'à présent, Pékin était plutôt frileux à cet égard. Eh bien, on comprend tout à fait parce que la Chine a énormément d'intérêts économiques, notamment en Europe, dans l'Union européenne, mais aussi avec l'Occident de manière générale. Pour autant, à mesure que le conflit avance, en réalité, l'Occident n'apparaît plus aussi uni qu'au début de la guerre, bien sûr, on est à 2 ans maintenant. On sait aussi que forcément la Chine a davantage d'opportunités dans ce contexte-là, que peut-être les populations occidentales commencent à moins penser à cette guerre. D'ailleurs, c'était le message, je crois, d'Emmanuel Macron récemment, quand il expliquait qu'il fallait potentiellement imaginer envoyer des hommes sur le terrain à un moment donné. Je crois que le message d'Emmanuel Macron, c'était justement de créer en fait un électrochoc pour essayer de réactiver la conscience collective au sujet de cette guerre. Et donc je crois que la Chine, elle, profite un peu de ce délitement finalement de l'Union occidentale.
Et quand Pékin dit vouloir soutenir la Russie dans le dossier ukrainien, soutenir la Russie, ça passe par quoi concrètement ?
Je crois que ça passe d'abord par l'axe économique. Hein. On sait que les relations économiques entre la Chine et la Russie sont très importantes, elles sont exponentielles ces dernières années. Et ça passe potentiellement aussi, et ça on en a moins de certitude pour le moment, mais par une aide militaire, il ne serait pas impossible que dans quelques mois, voire quelques années, on découvre finalement que Pékin aide déjà, en fait, la Russie de Vladimir Poutine d'un point de vue militaire, mais on n'en a pas la certitude.
Peut-être indirectement, on sait que la Chine vend du matériel militaire, que ce soit à l'Iran ou à la Corée du Nord. Est-ce qu'indirectement, ça peut finir sur le champ de bataille ukrainien ?
C'est tout à fait possible, bien sûr. Et de toute façon, à partir du moment où, d'un point de vue économique, vous augmentez vos partenariats encore et encore dans ce contexte-là, l'aide est assez claire.
Alors, ce qui est surprenant, c'est que la Chine a pourtant une aversion fondamentale pour toute violation des frontières étatiques. Le soutien tacite de la Chine à l'égard de l'incursion russe en Ukraine, ça peut se comprendre par les ambitions de Pékin vis-à-vis de Taïwan ou...
C'est difficile de tirer des plans sur la comète dans ce contexte-là. Moi, je dirais plutôt que c'est vis-à-vis des États-Unis qu'il faut comprendre cette stratégie chinoise. Il y a cette idée que l'OTAN, enfin, il y a cette idée du côté chinois que l'OTAN a fait des erreurs dans les années 90-2000 en s'étendant à l'ensemble des anciens pays du pacte de Varsovie et de certains pays post-soviétiques, notamment les pays baltes. Il y a cette idée que, évidemment, cette alliance militaire qu'est l'OTAN représente potentiellement un danger à la fois pour la Russie, mais aussi potentiellement pour les pays non occidentaux, l'Asie centrale, mais aussi potentiellement la Chine. Et donc je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce soutien. On est dans un monde, comme je le disais tout à l'heure, qui, dans une certaine mesure, se désoccidentalise, ou en tout cas dans un monde où finalement l'Occident n'a plus pignon sur rue comme ça a pu être le cas avant. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que des pays non occidentaux, parfois non démocratiques, commencent à imposer leur voix, en fait, là où ça n'était pas possible avant.
Alors, on a entendu aussi l'Inde de Narendra Modi féliciter Vladimir Poutine après sa réélection. Delhi qui en profite pour s'engager à renforcer les liens avec Moscou. Ça change de la prudence avec laquelle Delhi commentait jusqu'ici la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut y voir le début d'une prise de position en faveur de l'invasion opérée par Moscou, d'un changement de cap de la diplomatie indienne ?
Je crois que de manière générale, le séisme qu'est la guerre d'Ukraine représente énormément d'opportunités pour beaucoup de pays, à la fois occidentaux, mais aussi et surtout non occidentaux. En fait, l'Inde fait partie de ces fameux BRICS, donc ces fameux pays émergents qu'on a nommés ainsi au début des années, dans les années 2000.
Avec Moscou.
Avec Moscou, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Évidemment, là, on sait que l'Inde est devenue la première puissance démographique de la planète. Hein. Elle est passée devant la Chine récemment. 1,4 milliard d'habitants actuellement en Inde, évidemment, c'est très important. Et elle a à cœur, je crois, de jouer un très grand rôle dans ce nouveau monde qui arrive.
Et est-ce que ça veut dire que Pékin, vont cesser de jouer ce rôle de funambule qu'ils jouent depuis le début du conflit ?
Non, probablement pas. Justement, je pense qu'ils sont dans ce rôle de funambule actuellement. Ils vont continuer à essayer d'osciller entre leurs intérêts économiques du côté occidental et du côté non occidental. Mais il y a une fenêtre d'opportunité actuellement, comme je le décrivais juste avant. Et je crois qu'ils s'infiltrent dans la brèche.
Les réactions sont nombreuses, évidemment, après l'annonce de la réélection de Vladimir Poutine. On va s'intéresser tout de suite à celle venue du camp occidental.
L'élection en Russie a été une élection sans choix. Le processus électoral ne montre pas seulement l'action infâme de Poutine contre son propre peuple, mais il viole également la Charte des Nations Unies. Organiser des soi-disant élections dans certaines parties de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie est contraire au droit international.
La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui réagit donc à la réélection de Vladimir Poutine. On est loin, très loin des propos chinois ou indiens. Pour autant, si tous les dirigeants occidentaux sont d'accord pour qualifier la présidentielle russe de mascarade, l'unité semble aujourd'hui moins d'actualité. Le néerlandais Geert Wilders et le slovaque Robert Fico suggèrent à voix haute qu'il serait préférable d'accompagner la négociation forcément perdante de Zelensky face à Poutine. Giorgia Meloni l'a concédé elle aussi. Viktor Orban n'est peut-être plus si seul en Europe ?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, Vladimir Poutine, lui, sa stratégie, c'est de miser sur le moyen terme, voire le long terme. L'idée, c'est que il suppose que les démocraties sont faibles, en raison notamment des alternances politiques qu'elles supposent, et que de fait, cette union occidentale qu'on a pu voir dans la première année de guerre notamment, va peu à peu se déliter. En ce moment, c'est ce qu'on observe, en tout cas on a cette sensation. Néanmoins, ça ne signifie pas pour autant que ce sera le cas toujours, attention, hein, et surtout bien malin celui qui saura dire de quoi demain sera fait dans le contexte ukrainien, évidemment. Mais par contre, force est de constater que, bien sûr, l'Occident actuellement est affaibli, et on le voit sur la ligne de front, tout simplement, en Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine n'avance plus, la Russie avance. Elle peut, en clair, on a un front qui est assez figé mais très violent encore, avec des dizaines de morts tous les jours, en tout cas de façon assez régulière. Mais ce contexte-là montre bien que la Russie reprend un peu l'avantage et son économie de guerre actuelle laisse présager une guerre assez longue en réalité.
Alors, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Vladimir Poutine, on va y revenir. Mais en tout cas, ces fissures dans l'unité européenne, c'est peut-être ce qui explique la sortie très remarquée d'Emmanuel Macron sur l'éventuel déploiement de troupes au sol en Ukraine. Le président russe a répondu à Emmanuel Macron.
Je pense que tout est possible dans le monde d'aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, et c'est clair pour tout le monde, que nous serions alors très près d'une troisième guerre mondiale à grande échelle. Je pense que cela n'intéresse personne. En ce qui concerne la position du président français, il y a déjà eu quelques amendements dans le sens où ce contingent aura des fonctions secondaires, comme de la formation militaire en Ukraine et d'autres fonctions de ce type là-bas. Ce n'est pas très différent aujourd'hui de ce que font les mercenaires. Et puis les troupes armées de l'OTAN sont présentes là-bas, nous le savons. Il n'y a rien de bon là-dedans, surtout pour eux, car ils meurent, et en grand nombre. Mais au bout du compte, ce n'est pas notre choix. Si quelqu'un veut dissimuler ses problèmes politiques nationaux avec une rhétorique étrangère agressive, c'est une technique bien connue et souvent utilisée partout dans le monde. Mais j'aimerais beaucoup que la France ne joue pas un rôle qui conduise à l'aggravation du conflit, bien au contraire. Il y a aussi des discussions sur d'éventuelles voies de règlement pacifique. La France pourrait jouer un rôle. Tout n'est pas encore perdu.
Comment vous analysez, Lucas Aubin, ce qui peut apparaître comme une réponse de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron? Ça vous fait sourire?
Oui, ça me fait sourire jaune. Hein. Ça me fait,
bien sûr.
Évidemment, hein, mais c'est comme souvent avec Vladimir Poutine, une inversion des réalités. C'est qu'il juge effectivement que, enfin, il déclare que c'est l'Occident qui s'ingère dans les affaires russes, ukrainiennes et de manière générale dans les affaires du monde, là où en réalité c'est bel et bien lui qui, pour le moment, a envahi l'Ukraine et cherche à aller jusqu'à Kiev encore actuellement. Et d'ailleurs, la question du cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour du tout. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de dialogue quand même qui l'instaure avec Emmanuel Macron à distance. Et finalement, on a une sensation, après avoir écouté cet extrait, une sensation de flou qui perdure un peu. Et ça, c'est une stratégie russe assez courante depuis quelques années notamment. C'est qu'il y a cette idée de jouer le chaud et le froid pour désunir l'opinion occidentale, pour semer le trouble dans le concert des nations et finalement tirer son épingle du jeu dans ce trouble créé, dans ce confucianisme, en fait, comme on pourrait l'appeler.
Parce que Vladimir Poutine sait bien qu'il y a des élections européennes qui se profilent au mois de juin. Il sait bien qu'il y a une forte poussée populiste à l'approche du scrutin. Si elle se transforme en victoire pour l'extrême droite, il peut s'en douter. Ça aura des conséquences sur la politique de Bruxelles vis-à-vis de l'Ukraine. Il compte là-dessus, Vladimir Poutine.
Oui, Vladimir Poutine, il mène en fait ce qu'on appelle aujourd'hui, de plus en plus en tout cas, une guerre hybride. C'est-à-dire qu'il n'est pas officiellement, et c'est le paradoxe, selon lui en tout cas, en guerre contre l'Ukraine. Il mène une opération militaire spéciale. Par contre, il considère que ce qu'il appelle l'Occident collectif mène une guerre politique contre la Russie. Et face à cette guerre politique, il répond par une guerre hybride. C'est-à-dire qu'il utilise notamment les médias, le cyberespace, pour diffuser des informations dans les espaces informationnels de pays tiers, notamment de pays occidentaux. Donc en France, par exemple, on a eu à une époque RT, Russia Today et Sputnik News. Mais il faut aussi imaginer qu'un certain nombre d'informations qu'on peut voir sur Twitter, sur Instagram, de manière générale sur les réseaux sociaux, qui diffusent un narratif russe, peuvent être justement diffusées par des acteurs en fait, du Kremlin même, qui sont payé concrètement pour ça, pour diffuser ce narratif. Et évidemment, on va le voir pour les élections américaines très prochainement, on l'a déjà vu lors de la première élection de Donald Trump notamment, on sait que la Russie avait mis énormément de moyens pour aider à cette élection. Aujourd'hui, il faut tout à fait imaginer que au sein même de l'écosystème informationnel européen, on va avoir des tentatives de désinformation ou d'information ou plutôt de diffusion du narratif russe durant cette campagne européenne.
On le disait, Lucas Aubin, le Kremlin, Moscou peut compter sur un soutien actif de certains pays dans la guerre qu'il mène en Ukraine. On pense notamment à l'Iran, qui parle d'ailleurs, Ebrahim Raïssi, le président iranien, de solide victoire de Vladimir Poutine. Téhéran, c'est un partenaire essentiel pour la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.
Oui, c'est un partenaire très important d'un point de vue militaire, tout comme la Corée du Nord aussi peut l'être. C'était des soutiens qui pouvaient faire sourire au début de la guerre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des soutiens qui sont
les
importants.
Les drones iraniens font des ravages.
Les drones iraniens, les obus nord-coréens permettent d'aider, ont permis d'aider la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, cette Russie s'est mise dans une forme d'économie de guerre qui laisse supposer que la guerre va durer. Donc on peut supposer aussi que la Russie aura moins besoin à un moment donné de ces drones et de ses obus, puisqu'elle sera capable de les produire elle-même. Par rapport à l'Iran, pour revenir sur ce sujet-là, il y a aussi la question du conflit, évidemment, israélo-palestinien qui rentre en compte. Jusqu'à présent, la Russie était plutôt proche, finalement, d'Israël. Un changement s'est opéré. Et actuellement, on sent bien que la Russie soutient davantage Gaza, finalement, ou le peuple palestinien, que, évidemment, Israël. Et dans ce contexte, le rapprochement avec l'Iran se fait sont de plus en plus présentes.
Puisqu'on parle du Proche et du Moyen-Orient, on peut s'intéresser au rôle des Émirats Arabes Unis de Dubaï vis-à-vis de Moscou. Un rôle qui, là, ne s'apparente pas du tout à du soutien militaire, mais plutôt à une aide économique ou pour contourner les sanctions.
Oui, d'ailleurs, il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, Vladimir Poutine avait fait son premier voyage à l'étranger depuis très longtemps. Il était allé, si je ne m'abuse, à Dubaï, justement. Il avait été accueilli en grande pompe et ça laissait supposer que ça y est, certains pays commençaient déjà à passer à autre chose, effectivement. Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, de manière générale, en fait, les pays du Golfe font ce qu'on appelle une diplomatie et ont une économie multivectorielle, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des alliés, il y a aussi et surtout des intérêts. Et en l'occurrence, la Russie offre une fenêtre d'opportunité assez exceptionnelle actuellement, puisque il faut le rappeler, mais le gaz russe ne transite plus vers l'Union européenne, et donc potentiellement des dérivations sont possibles.
En tout cas, pour ces pays, on le comprend à vous entendre, rien n'est ou tout noir ou tout blanc. En Asie, la Russie peut aussi compter sur ses voisins. L'Arménie s'est découverte une passion pour les appareils de télécommunication made in Europe. Les Kirghizes raffolent de nos automobiles, les exportations de technologies occidentales vers l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Géorgie, l'Arménie, même la Turquie explose. Une hausse subite qui coïncide avec le début de la guerre en Ukraine. Y aurait-il un trou dans la raquette des sanctions occidentales ?
Tout à fait. C'est à partir du moment, de toute façon, où vous essayez de stopper une relation économique, quelle qu'elle soit, entre un pays et un autre, alors on est dans un monde ultralibéral ou mondialisé. Donc finalement, des dérivations sont possibles. On l'a vu très rapidement, notamment avec le Turkish Stream, donc le gazoduc qui passe de la Russie à la Turquie, où on a vu effectivement le partenariat économique entre la Turquie et la Russie augmenter de façon exponentielle. Et de fait, énormément de pays, finalement, bénéficient, entre guillemets, hein, de cette guerre. Après, vous parliez justement des pays d'Asie centrale, donc les fameux 5 pays en ce temps. Ces pays d'Asie centrale, post-soviétiques, étaient jusqu'alors très proches de la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on peut...
Ils craignent de subir le même sort que l'Ukraine ?
Il y a potentiellement cette inquiétude. Et donc, il y a cette idée de faire de la diplomatie à pas de fourmi, j'allais dire, pour essayer de diversifier leurs intérêts et de ne pas être encore plus sous la tutelle de Moscou, comme ça pouvait être le cas jusqu'à présent. Et donc, on a vu notamment l'Ouzbékistan et le Kazakhstan émettre des réserves quant à l'influence russe au sein de leur propre pays. Et l'espace post-soviétique, de manière générale, qui était le précaré de la Russie de Vladimir Poutine, est en train d'actuellement, finalement, exploser sous l'effet de ce séisme, de cette guerre d'Ukraine. Et c'est là où, justement, il faut mettre un bémol sur, effectivement, cette fameuse désoccidentalisation du monde. Elle n'est pas totale, et au contraire, les pays suivent leurs propres intérêts.
Le temps passe, Lucas Aubin. Cette émission touche à sa fin. On n'a pas parlé notamment de la présence russe en Afrique. Il y aurait eu bien des choses à dire. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre
Merci
invitation sur RFI.
Priorité sans...